Eliane Barreille, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir ce matin dans votre bureau du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence à Digne-les-Bains, présidente de ce Conseil départemental. Vous avez mené plusieurs réunions de mi-mandat ces dernières semaines, un peu partout sur le territoire basalpin. Alpin vous a demandé de vous mettre une note sur 10, votre note 10. C'est vous, hein? C'est vous qui vous êtes mis 10.
Je ne peux pas me mettre moins puisque c'est moi qui fais, qui organise les réunions. Donc, je peux supposer que les réunions sont intéressantes pour tous.
Mais si vous devez faire votre bilan, vous aujourd'hui, 76% du programme au niveau des investissements ont été réalisés.
On a effectivement 76% de réalisation effectuée. Et puis quand même, et surtout, un budget stabilisé et des finances saines. Contrairement à un grand nombre aujourd'hui de départements qui sont en difficulté suite aux procédures gouvernementales, nous avons un très beau budget d'investissement qu'on a pu maintenir. On n'a rien enlevé à ce qu'on avait prévu à notre programme pluriannuel de mandat. Mais surtout, nous nous sommes très considérablement désendettés, puisqu'on a fait moins 35% au titre de l'endettement.
Comment on parvient à trouver cette recette-là, alors qu'aujourd'hui, au niveau national, on nous en demande, enfin, on nous en demande pas à nous particulièrement, mais en tout cas aux collectivités, on en demande encore plus de participation. Et quand on parle de l'Ukraine aujourd'hui, on sait qu'il y aura encore certainement plus de participation. Comment on arrive à trouver cette recette?
Nous nous sommes désendettés tout de suite en arrivant parce que on a eu les années fastes de sortie Covid avec des droits de mutation très élevés, ce qui nous a permis effectivement d'avoir des marges de manœuvre importantes. Donc on a évidemment on est sorti avec des excédents confortables et ces excédents nous ont permis de nous désendetter. Aujourd'hui, nous rentrons dans le dur parce que d'abord, il y a des actions gouvernementales qui vont nous mettre quand même un peu en difficulté. Et puis aussi parce que nous rentrons dans le dur en termes d'investissement avec de très, très gros programmes d'investissement qui vont démarrer 2025-2026. Si on s'était pas désendetté dans les deux années précédentes, aujourd'hui, on ne serait pas en capacité de réaliser.
Est-ce que ça vous inquiète aussi quand la région, par la voix de Renaud Muselier, le président, dit « aujourd'hui, c'est fini » tout ce qui n'est pas obligatoire pour la région, nous, on n'ira plus, c'est fini de cofinancer, de subventionner des projets de cette façon. Forcément, pour les collectivités locales comme un conseil départemental, ça fait moins d'argent aussi.
Aujourd'hui, je peux comprendre sa position puisqu'il subit les mêmes baisses drastiques que l'ensemble des autres collectivités, mais la région plus que toutes les autres. Donc, il est obligé de se recentrer sur ses compétences et c'est bien normal. Moi-même, j'ai demandé à chaque service de faire moins 7% parce que pour pouvoir répondre aux baisses que nous impose le gouvernement de dotation, mais aux hausses par ailleurs, qu'il nous impose aussi au titre du RSA, entre autres, et du point d'indice.
On va en parler.
On est bien entendu dans l'obligation de réaliser des économies sur le fonctionnement.
Moins 7%, ça veut dire quoi pour les services? Moins de personnel?
Ah non, c'est pas un problème de personnel. On a stabilisé la masse salariale aujourd'hui. On a mis en place un certain nombre de techniciens dans les services et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Je pense que tout est organisé. Nous mettons encore en place quelques tuilages pour pallier le départ de directeurs ou de chefs de service qui partent à la retraite. Mais en tous les cas, on a stabilisé la masse salariale. Les moins 7%, c'est sur un peu l'ensemble, c'est-à-dire sur tous les frais de fonctionnement, y compris dès lors que il s'agit de subventions, y compris sur le montant des subventions.
Dernièrement, il a été évoqué 6 millions d'euros qui ont été votés pour un nouveau centre médico-social à Manosque. Qu'est-ce qu'il a, ce centre médico-social actuel, qu'il faut réfléchir à du neuf?
C'est très simple. D'abord, il y a à peu près 80 personnels qui sont dans ce bâtiment. C'est l'ancien bâtiment qui appartenait aux impôts, qui est dans un état relativement vétuste. Et aujourd'hui, nous avons vraiment l'obligation de trouver des bâtiments plus grands. C'est une vraie opportunité puisque Manosque lance son programme dans le cadre de l'ANRU. Donc il y a des démolitions de bâtiments qui vont permettre d'avoir des espaces. Et donc nous avons établi un partenariat avec le maire de Manosque. Nous mettons, nous, notre service territorial et lui, il mettra son CCAS. Et on regroupe ainsi tous les services sociaux de Manosque.
Et l'ancien centre?
L'ancien service territorial sera vendu, ce qui viendra en déduction du coût, bien entendu.
120 projets de territoire en plus seront soutenus, puisque 2 millions d'euros ont été alloués en plus aux contrats départementaux de solidarité. Ça fait 12 millions au total pour les communes et intercommunalités sur 2024-2026. Des projets à soutenir, mais avec quelle priorité? Parce que 2 millions, finalement, ça s'écoule vite aussi.
Il ne faut pas le voir comme ça. parce que les contrats de territoire, ils ont des enveloppes par territoire.
Donc, vous visez l'équité entre territoires?
Absolument. On a mis en place des critères qui nous permettent d'être équitables d'un territoire à un autre, qui prennent en charge bien sûr la population, mais aussi le potentiel fiscal. Donc tout ça, on l'a revu d'ailleurs, puisque Manosque était vraiment à la traîne et ils avaient un contrat de territoire beaucoup plus faible, par exemple, que celui de Digne. Donc on a revu les critères, on a fait en sorte que tout le monde y trouve son compte. Et aujourd'hui, je pense qu'au travers des contrats de territoire, les communes s'y retrouvent. Et cela vient compléter quand même le fonds d'aide aux communes, que l'on a aussi considérablement augmenté, ainsi que la ligne budgétaire en faveur des réseaux d'eau potable et d'assainissement.
Oui, vous voulez économiser 2 millions de mètres cubes d'eau potable, c'est ce qui a été évoqué lors des dernières assises départementales de l'eau.
Il y a quelques communes qui ont des réseaux très très vétustes et qui aujourd'hui ont des fuites très importantes.
Digne, c'est encore le cas, on sait qu'il y a quelques années en arrière, c'était le mauvais élève, 50% qui partait dans la nature.
Alors ça n'est plus Digne, le mauvais élève, mais en tous les cas, il y a quelques mauvais élèves. Ce sont des projets importants, vous le savez bien, surtout lorsqu'il s'agit de petites communes, parce qu'il y a des longueurs très importantes et que tout cela coûte très très cher. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes positionnés en augmentant notre enveloppe à destination de ces travaux et que nous intervenons beaucoup sur l'eau potable et sur l'assainissement. Je fais un bémol sur l'assainissement, puisque sur l'assainissement, on n'a pas assez de demandes. C'est-à-dire qu'il y a, si on prend le schéma d'assainissement du département, il y a un grand nombre de communes qui aujourd'hui ont des assainissements qui mériteraient d'être revus, notamment des stations d'épuration. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert cette enveloppe.
Autre vote, pas des moindres, le RSA. On rappelle que c'est le département qui le paye et qu'il devrait être compensé à l'euro près par l'État. Je dis bien devrait être. Depuis le 1er avril, il a été revalorisé de presque 11 euros. Combien ça représente en plus pour le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence? Vous avez une idée aujourd'hui?
Alors, j'ai une idée. Le problème, c'est que nous avons, dès le début du mandat, mis en place ce service public d'insertion par l'emploi. Et grâce à ça, nous avons mis en face des allocataires de RSA, des entreprises. Du coup, on a diminué considérablement notre nombre d'allocataires, puisqu'on a baissé de 7,5% le nombre d'allocataires. Donc, on a eu une forte hausse.
Depuis le début de votre mandat?
Oui, tout à fait. Donc, on a eu une forte hausse liée aux positions gouvernementales, aux obligations gouvernementales. Mais effectivement, compensé. Qui est un peu disparu dans la baisse du nombre d'allocataires. Donc aujourd'hui, ça nous coûte un peu moins que si on n'avait pas eu cette baisse. Mais pour autant, la prochaine augmentation de RSA qui est prévue va nous coûter 900 000 euros de plus.
Et vous dites quoi à l'État? C'est quand qu'on est compensé à l'euro près?
Moi, je ne crois plus au Père Noël.
Donc l'État ne sera certainement pas le Père Noël. Certains départements menacent déjà de suspendre le paiement du RSA. Vous iriez jusque-là?
Non, je n'irai pas jusque-là. Parce que c'est mettre en difficulté des gens qui sont déjà en difficulté. Donc je n'irai pas jusque-là. Pour autant, bien entendu, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont ça se passe. Parce que l'État prend des décisions. Il n'y a pas que celle-là de décision. L'État prend des décisions et il nous incombe à nous de trouver en face les financements.
Vous avez décidé d'augmenter le taux des droits et taxes d'enregistrement et de publicité foncière passant de 4,5% à 5%. Alors on va expliquer simplement, ce sont des frais qu'il faut payer lors d'une transaction immobilière. Donc ça veut dire que quand on achète un bien immobilier dans les Alpes-de-Provence, on va payer plus cher. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse du mal, et notamment aux primo-accédants qui ont de plus en plus de mal à accéder au marché de l'immobilier?
Alors pas du tout, parce que c'est la première question que j'ai posée. Effectivement, j'étais inquiète par rapport aux primo-accédants. Mais dans la loi, il est prévu que les primo-accédants ne sont pas touchés. Donc du coup, il n'y aura pas de changement pour les primo-accédants, il n'y aura pas d'augmentation de droits de mutation.
Ce sera donc pour les autres accédants qui auront une légère augmentation?
Oui, mais je pense que quand on achète un bien, le droit de mutation, ce n'est pas forcément ce qui prévaut.
La santé, Vaste problématique dans les Alpes-de-Haute-Provence. 22 600 bases alpins n'ont pas de médecin traitant. L'une de vos réponses a été le centre départemental de santé à Digne-les-Bains. Autre problématique, les urgences. On sait les urgences de Manosque, maintenant désormais Sisteron, qui ferment certaines nuits. Enfin, 18% des médecins généralistes ont aujourd'hui plus de 60 ans. C'est une addition de problèmes. Je vous demande aujourd'hui la solution.
Alors, il vous a pas échappé que le département n'a pas la compétence santé.
Non, mais en tout cas, vous avez participé avec ce centre départemental.
Parce qu'une fois que j'ai dit que j'ai pas la compétence santé, je me dis aussi que je peux pas rester immobile et les yeux fermés. Donc, on a fait faire une étude. Effectivement, les chiffres que vous donnez là font partie de notre étude. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester sans rien faire. Donc, on a recensé les secteurs où il y avait le manque le plus prégnant de médecins. Peut-être pas forcément aujourd'hui, mais à court terme. Donc, il y avait Digne, il y a d'autres secteurs, dont Château-Arnoux, mais il y a Digne. Et donc, on a pris la décision de créer ce centre de santé qui, aujourd'hui, fonctionne très, très bien. On a déjà à peu près 500 personnes qui ont trouvé un médecin traitant grâce au centre de santé. Donc, c'est plutôt très positif. Bien sûr, on ne peut pas intervenir partout. D'abord parce qu'on n'a pas la compétence, mais on n'a pas non plus les moyens financiers. Ouais. Les urgences, typiquement, c'est du régalien. C'est à l'État de réagir. Mais l'État ne peut pas fermer les yeux sur la situation des urgences dans les départements ruraux. C'est impensable. Vous savez que quand je suis arrivée, je m'étais beaucoup battue pour que nous puissions garder l'hélicoptère et que cet hélicoptère de gendarmerie puisse être utilisé à des fins sanitaires.
Puisse être médicalisé.
Voilà. Et donc, nous avons eu gain de cause. C'est ce qui a permis le maintien des urgences de Digne jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, le fait d'avoir des urgentistes qui interviennent dans l'hélicoptère a permis de stabiliser les urgences dinoises. Je dis bien dinoises. Ça ne change rien pour Manosque et Sisteron. Bon, on a reçu à plusieurs reprises l'ancien ministre de la Santé, qui est très, très pointu sur les problématiques d'urgence, puisqu'il était urgentiste lui-même. Bon, j'espère que l'État va se réveiller, va apporter des solutions dans nos départements.
Oui, parce que les problématiques, on les connaît. Ça, maintenant, on le sait. J'en ai parlé récemment avec David Géant, le maire de Fort-Calquier, qui regrettait que, par exemple, l'ARS et la préfecture des Alpes-de-Provence n'aient pas soutenu son centre de soins non programmé Paul Nalin, alors que c'est une réponse sur le territoire.
Alors, oui, vous avez raison, mais je pense qu'il faut prendre les choses globalement. Il ne faut pas non plus accepter le florissement de maisons de santé partout, parce que ce serait un contresens. Le problème, ce n'est pas de créer la maison de santé, le problème, c'est de trouver un médecin.
Oui.
Nous, aujourd'hui, nous manque un médecin encore.
Il faut les contraindre à venir dans les territoires ruraux. C'est une idée de la gauche, contraindre.
Alors, moi, les contraintes, j'aime pas bien. Il faut plutôt leur donner le choix et envie. C'est pour ça qu'on porte, nous, à notre niveau, une action auprès des internes. Il ne vous a pas échappé que j'ai fait venir pour l'inauguration du centre de santé Georges Leonetti, le doyen de la faculté de médecine. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que je veux qu'on ait un véritable partenariat pour les internes. Nous avons doublé la participation du département aux internes pour leur permettre de venir, de s'installer. Et j'ai espoir, et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera, que les internes qui auront fait leur internat à Manosque ou à Digne trouveront goût à rester dans notre département.
Encore faut-il que s'ils ont un conjoint ou une conjointe, eh bien, elles trouvent aussi le travail. Ça, c'est notre problème.
C'est l'éternel problème, mais ce n'est pas le problème que des médecins. C'est le problème
c'est problématique
de tous les
cas. Exactement. Dernière question, Eliane Barreil. Cette enquête pour prise illégale d'intérêt après qu'une de vos agents ait fait appel à la justice, c'est une information du Monde. Je reprécise, victime de deux accidents de travail reconnus aujourd'hui comme travailleuse handicapée, elle estimait que le département l'a cantonnée à des missions d'archivage avec des propositions de mutation loin de son domicile. La plaignante aurait sollicité la protection fonctionnelle auprès du département, notamment pour que la collectivité prenne en charge ses frais de défense, ce qui lui aurait été refusé. Aujourd'hui, cette prise illégale d'intérêt, vous avez déjà réagi plusieurs fois en disant ça n'est pas une affaire qui dépend de moi, ça dépend du département aujourd'hui, on a eu gain de cause.
Pas du tout.
Non ?
C'est pas on a eu gain de cause. Moi, j'ai découvert que j'étais... j'étais mise en cause dans le cadre d'une prise illégale d'intérêt par l'article du Monde.
Vous avez découvert par le Monde que vous étiez ?
Absolument. Absolument. Vous voyez un peu dans quelle situation je me suis trouvée quand on m'a envoyé cet article, en fait.
Le Monde ne vous a pas contacté ?
Non, jamais. Jamais. Il se trouve que là, je ne suis pas en capacité de vous répondre, puisque du coup, il y a une enquête qui suit son cours, et donc je ne veux pas en parler. La seule chose que, dont je peux vous dire, c'est qu'effectivement, cette personne a porté plainte pour harcèlement moral contre ma directrice des ressources humaines, contre le principal du collège et la gestionnaire, et que j'ai accordé la protection fonctionnelle à ma directrice des ressources humaines. Et donc, je n'ai pas accordé la protection fonctionnelle, par contre, à celle qui est attaquée. C'est tout. J'en dirai pas davantage. Je ne peux pas.
L'enquête suit son cours. Voilà. Dernière question. Candidate à votre succession, vous nous avez dit, si je m'en sens, pourquoi pas ?
J'ai dit pourquoi pas, si je suis en forme, pourquoi pas. Vous savez que j'ai un peu le territoire chevillé au corps et donc je prends beaucoup de plaisir dans ce mandat du conseil départemental.
Merci beaucoup Eliane Barret de nous avoir accueillis ce matin pour le 8:30 d'Alpes 1. Je rappelle présidente du conseil départemental des Alpes d'Haute-Provence. Merci à vous.
Merci à vous.